Bonjour. Votre magazine Métropole Mag est enregistré pour vous par les donneurs de voix de la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère. Vos lecteurs sont Daniel Bissuel, Martine Le Breton et Guy Helm. Métropole Mag numéro 19, rentrée 2025. Site grenoblealpesmétropole.fr. Grenoble-Alpes-Métropole, l'actualité du territoire et des services publics. Dans ce numéro, un dossier spécial, rentrée libre. Et si votre voiture devenait une Citiz? Les écoliers raffolent du vélobus. Quiz. Êtes-vous expert du partage de la route? Toutes vos questions sur la ZFE. Autre dossier. Solidarité. Comment faciliter l'accueil des migrants? Équipement. La métropole reprend la gestion du stade des Alpes. Écosystème. Sport de plein air. Une économie florissante dans l'agglomération. En image. Vif en folie. La commune de Vif a vécu une journée de grande fête avec le départ de la 18e étape du Tour de France le 24 juillet dernier. Record, à l'applaudimètre, pour l'imbattable Pogacar, mais aussi pour les Frenchies, Julian Alaphilippe ou, ici sur la photo, Lenny Martinez en maillot à pois. Travaux d'exception. Le pont d'Oxford, tout vêtu d'échafaudage, comme on peut le voir sur la photo, est en cours de remise à neuf. Les haubans, ces câbles qui supportent son poids, sont remplacés un à un. Le pont rouvrira à la circulation fin septembre en journée, mais restera fermé la nuit le temps de démonter le chantier jusqu'en novembre. Une rentrée pas comme les autres. Les étudiants de l'École d'art et design de Grenoble ont pu découvrir, à la rentrée, leurs nouveaux locaux de la rue Lesdiguières, comme on le voit ici sur la photo. Un bâtiment historique, complètement refait à neuf, beaucoup plus confortable et économe en énergie. Portes ouvertes. En juin, la métropole a ouvert les portes d'une trentaine de ses équipements et réalisations, comme on le voit sur cette photo, à l'occasion de ses 10 ans. Gros succès pour le centre de régulation des feux tricolores notamment, qui accueillait du public pour la première fois. Liste des communes composant la métropole. Bresson, Briey et Angonne, Champs-sur-Drac, Champagné, Clé, Coran, Domaine, Échirolles, Hébin, Fontaine, Gières, Grenoble, Herbé, Jarry, La Tronche, le Fontanil-Cornillon, Le Gat, le Pont de Clé, le Sapé en Chartreuse, Mélan, Miribel-Lanchâtre, Mont-Saint-Martin, Montchabou, Murianette, Notre-Dame de Commiers, Notre-Dame de Mésage, Noyaret, Poisat, Provézieux, Quai en Chartreuse, Saint-Barthélemy de Séchilienne, Saint-Égrève, Saint-Georges de Commiers, Saint-Martin-d'Air, Saint-Martin-le-Vinou, Saint-Paul-de-Vars, Saint-Pierre-de-Mésage, Sarcenat, Sassenage, Séchilienne, Cessiné-Parisé, Cessin, Vars, Allières et Rissé, Volnavé-le-Bas, Volnavé-le-Haut, Venon, Veure-et-Voroise, Vif, Visil. Le mot de Christophe Ferrari. Un territoire ouvert et hospitalier. Face à la montée des discours prônant le repli sur soi, le rejet de l'autre et du vivre ensemble, rappelons-nous le fruit de l'histoire, et notamment de notre histoire, localement. 180 nationalités sont ancrées sur notre territoire métropolitain et de l'ordre de 20% de nos étudiants sont internationaux. Solidaire et hospitalière, c'est l'histoire de la métropole qui a contribué et contribue toujours à son dynamisme. Notre territoire s'est construit par des vagues successives d'immigration venues du monde entier s'arrêter ici, temporairement ou plus longtemps, pour construire un bout de vie ou en reconstruire une. Par choix ou par nécessité pour celles et ceux fuyant la guerre, les régimes autoritaires, les difficultés économiques, les bouleversements climatiques ou des situations familiales éprouvantes. C'était des Espagnols hier, des Portugais, Chiliens, Marocains, Algériens, des Italiens, comme mon père, chassé et fuyant l'Italie fasciste de Mussolini, et qui travailla, comme bien d'autres, dans les mines du pays de la Mure. Ce sont aujourd'hui des Tchétchènes, des Ivoiriens, des Albanais, des Mauritaniens, des Éthiopiens, des Ukrainiens. Nous les avons accueillis hier, nous les accueillons aujourd'hui, avec la volonté de répondre aux besoins essentiels, se loger, se former, travailler, apprendre le français, se déplacer, accéder aux soins, etc. Vous verrez, dans ce Métropole Mag, le travail précieux que nous menons en ce sens avec nos partenaires, notamment associatifs. Nous les accueillerons demain et après-demain, je l'espère. C'est notre devoir, notre responsabilité. Christophe Ferrari, président de la Métropole, maire du Pont de Claix. À retenir. Grenoble, la déchetterie Jacquard rouvre le 29 septembre. La plus grande déchetterie de Grenoble va rouvrir ses portes aux usagers lundi 29 septembre, et ils ne reconnaîtront pas les lieux. Le site est 5 fois plus grand, avec une circulation en boucle, des cheminements réservés aux piétons et cyclistes, et 15 bennes pour davantage de déchets acceptés. Cette déchetterie se veut aussi un lieu d'accueil pour le réemploi et un tri de meilleure qualité, avec un espace réservé aux déchets réutilisables, jouets, articles de bricolage, et l'accueil ponctuel d'un repair café. Avec cette nouvelle déchetterie XXL, celles de Jouot et des Peupliers vont fermer leurs portes. Site grenoblealpemétropole.fr/déchetterie au pluriel. Saint-Martin-d'Air. Les espaces publics se transforment. La métropole grenobloise investit 13 millions d'euros à Saint-Martin-d'Air pour transformer l'espace public, sécuriser les piétons et cyclistes et végétaliser les rues. Après la création de plusieurs passages piétons sur l'axe Gabriel-Péri, rue des Glairons, le programme Cœur de ville, cœur de métropole est en cours dans le secteur Marcel Cachin et prévoit pistes cyclables, trottoirs élargis, espaces verts et nouveaux aménagements autour des écoles et commerces. Objectif : apaiser la circulation, améliorer le cadre de vie et renforcer l'attractivité locale. Fontaine. Un ruisseau découvert dans le futur quartier Porte du Vercors. Caché dans un tuyau sous la route depuis les années 80, la petite Saône a été mise à l'air libre et dotée d'une promenade végétalisée sur 550 mètres de long, apportant une touche de fraîcheur bienvenue sur le site du futur quartier Porte du Vercors à Fontaine, proche de Sassenage. Ce projet d'aménagement urbain sur une ancienne friche est piloté par la métropole, en lien notamment avec la ville de Fontaine. Il verra naître un quartier de résidence de qualité, avec des commerces, des restaurants et un cinéma. L'accent sera mis sur la fraîcheur avec 3 hectares désimperméabilisés et 90 arbres plantés. L'investissement total prévu par la métropole pour ce quartier, qui comprendra à terme 950 logements, est de 27 millions d'euros. Info sur grenoblealpemétropole.fr/porte du Vercors, tout attaché au pluriel. Voiture. RB à l'électrique. RB accueille sa première borne de recharge pour véhicules électriques installée par Grenoble Alpes Métropole sur la place du village face à la mairie. Dotée de 2 points de charge lente, 7 kW, elle s'inscrit dans l'objectif d'équiper chaque commune d'ici fin 2025, comblant ainsi l'absence d'initiatives privées afin de faciliter le passage à l'électrique pour les habitants. Avec déjà 500 points de charge publique, la métropole vise 1000 bornes publiques d'ici 2030, assurant ainsi un maillage équitable, y compris dans les zones rurales. Exposition. Cet été, du béton à 50 degrés Celsius. Vous avez peut-être croisé cet été l'exposition « Plus fraîche ma ville » qui a sillonné le territoire. Organisée dans le cadre des débats pour le climat de la métropole, elle a permis à de nombreux visiteurs de comprendre, grâce à des ateliers et jeux, l'enjeu de l'adaptation de nos villes aux fortes chaleurs. En mesurant la température d'un mur en béton foncé, le laser a même affiché en juillet 50 degrés Celsius. Grâce à Coolopolis, un jeu ludique, les visiteurs ont pu s'essayer à adapter leur quartier miniature. Plantation d'arbres, suppression de bitume, adapter son logement sans recourir à la climatisation, etc. Les débats pour le climat continuent cet automne. Site débatpourleclimat.fr. Grenoble, la place de Metz en cours d'aménagement. Après une vaste phase de concertation, la place de Metz à Grenoble va se transformer et notamment être végétalisée pour lutter contre l'effet îlot de chaleur. L'actuel parking deviendra un jardin doté de 28 grands arbres, d'arbustes et de plantes vivaces. La place sera désimperméabilisée pour faciliter l'infiltration de l'eau de pluie. Elle sera piétonnisée avec une attention particulière pour valoriser la basilique et son parvis. Le chantier doit se tenir jusqu'au mois de mai 2026. Se déplacer. Partage ton auto. Et si votre voiture profitait à d'autres? Vous utilisez peu votre voiture et son entretien vous coûte cher? La coopérative Cities vous propose de l'intégrer à sa flotte de véhicules en autopartage. Une solution économique, écologique, avec en prime moins de tracas pour vous. Au-delà de l'achat d'une voiture, il faut compter 800 à 1800 euros par an pour l'entretenir, selon son âge, sa motorisation. À cela s'ajoutent les frais de carburant, d'assurance, de péage et de stationnement. Un budget conséquent pour un véhicule qui reste, bien souvent, inutilisé la majeure partie du temps. Et si ce temps était optimisé grâce à l'autopartage? En temps normal, un véhicule reste 95% du temps à l'arrêt, explique Solène Bérezia de Cities. L'idée, c'est d'optimiser son utilisation et de réduire le nombre de voitures qui encombrent les villes et les parkings. Particuliers, entreprises, collectivités, tout le monde peut proposer son véhicule à l'autopartage via Cities. Une convention est alors établie entre le propriétaire et la coopérative qui prend en charge l'ensemble du service. Habillage du véhicule aux couleurs de Cities, installation du système embarqué permettant sa réservation, entretien, assurance, stationnement. Une vraie tranquillité d'esprit pour le propriétaire. En contrepartie, celui-ci bénéficie d'un accès préférentiel à l'ensemble des véhicules du réseau Cities. Et lorsqu'il a besoin d'un véhicule, il peut réserver le sien, s'il est disponible, ou un autre Cities. Au lieu d'avoir un seul véhicule qu'elle utilise peu, la personne accède à une flotte de 2500 véhicules disponibles dans toute la France à tarif réduit. Lorsque son véhicule est utilisé par un autre conducteur, le propriétaire touche un revenu complémentaire. Le dispositif vous intéresse ? Un questionnaire en ligne permet de savoir si votre véhicule est éligible. Il doit notamment être peu polluant, vignette critère 0 à 2 uniquement, en très bon état et relativement récent. Dans la métropole grenobloise, une vingtaine de véhicules, sur les 300 que compte la flotte locale, sont déjà partagés par des tiers. Plus d'informations sur aura.citiz.coop/partager-votre-auto. Elle a testé. Estelle Burlet, infirmière, Mélan. Il y a quelques années, j'ai racheté un véhicule neuf pour exercer mon activité d'infirmière libérale. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à faire ma tournée des patients à vélo. Je ne me servais donc plus de ma voiture. C'est là que j'ai entendu parler du dispositif d'autopartage proposé par Citiz, et ça a très vite fait sens pour moi. Le principal avantage, selon moi, c'est de se libérer de la charge mentale liée au véhicule, son entretien, son stationnement. Et c'est satisfaisant de se dire qu'un bien aussi coûteux est utilisé plus souvent. Aujourd'hui, je me déplace quotidiennement à vélo et j'utilise ponctuellement un véhicule Citiz, notamment les week-ends et pendant les vacances. Cette solution me correspond tout à fait. Le mois de la mobilité, c'est maintenant. Et si vous profitiez de la rentrée pour tester de nouveaux modes de déplacement? Pour vous accompagner, chaque année en septembre, la métropole, en lien avec le SMMAG, les communes et les acteurs du territoire, vous propose une série d'animations, ateliers, projections, conférences, etc., pour découvrir d'autres façons de se déplacer. Info sur le site grenoblealpemétropole.fr/mois-de-la-mobilité, tout attaché. Vélobus, Ancel pour l'école. Chaque lundi et vendredi matin, une quinzaine d'élèves de la tronche rejoignent leur école à vélo avec le dispositif Vélobus, une initiative portée par des parents réunis dans l'association Les Petits Mollets pour replacer le vélo au cœur des trajets du quotidien. Et les enfants adorent. Devant la bibliothèque de la tronche, le rendez-vous du vélobus est devenu un rituel. Casqués, gilets fluo sur le cartable, les enfants arrivent au compte-gouttes, escortés de leur papa ou maman. Avant le départ, ils transforment la place en parcours cycliste ludique avec le mobilier urbain. Une bonne manière de démarrer la journée. J'aime bien ce moment où je peux retrouver mes copains, puis la grande descente jusqu'à l'école, raconte Lison, 8 ans. À 8h08 précise, le cortège s'élance. Il s'étoffe et s'anime joyeusement à chaque point de ralliement avant d'atteindre l'école une dizaine de minutes plus tard. Ce vélobus, un convoi d'enfants à vélo encadré par leurs parents, a vu le jour en juin 2023 à l'initiative de quelques parents. On voulait proposer une alternative simple, agréable et écologique à la voiture, et montrer que c'est possible, même avec des enfants. Il suffit de faire une place au vélo, explique Yannick, parent d'élève. L'expérimentation a vite pris et a fait des émules. Pour aller plus loin, le groupe s'est structuré en association Les Petits Mollets. L'enthousiasme est contagieux. Au-delà de l'aspect pratique et convivial, le vélobus transmet des savoir-faire essentiels. Rouler en groupe, traverser, se positionner sur la chaussée, les enfants apprennent à circuler en sécurité, souligne Bruno, un des papas. Et cela ne s'arrête pas à l'école. Mon enfant veut maintenant faire d'autres trajets à vélo. Et moi aussi, j'ai changé mes habitudes. Les bénéfices sont multiples. Moins de voitures devant l'école, des enfants plus autonomes, des liens renforcés entre familles. Et l'enthousiasme est contagieux. En voyant le cortège, d'autres enfants ont eu envie de participer et ont convaincu leurs parents de se joindre au groupe. Mais certaines contraintes urbaines compliquent encore la pratique du vélo au quotidien. Dans certains secteurs, les rues sont étroites et pas toujours adaptées aux mobilités douces, observe Yannick. Il faudrait pouvoir sécuriser davantage les itinéraires en lien avec les usages réels. Bruno complète. On pourrait aller plus loin en matière de sécurité. Il s'agit d'adapter la ville au vélo, pas seulement sur notre parcours, mais à une échelle plus large. Pour passer à la vitesse supérieure, les membres des Petits Mollets ont déposé un dossier au budget participatif de la ville de La Tronche afin de financer du matériel, baliser l'itinéraire, améliorer la signalisation et organiser des événements autour du vélo. Autre chantier en cours, permettre à des enfants de participer au vélo-bus même sans leurs parents. C'est tout l'enjeu de la création de l'association qui permet d'assurer les adultes encadrants. Un fonctionnement plus souple, plus pratique, qui pourrait lever des freins logistiques et faire grandir le mouvement. En chiffres, 59%. Le principal frein pour les parents à l'idée d'emmener leur enfant à l'école en vélo est la question de la sécurité. Enquête IFOP pour EcoCO2 2021. La métropole et les communes s'associent pour développer les pistes cyclables, aménager et sécuriser les abords des établissements scolaires avec des rues aux enfants, à l'instar de la rue Claude Debussy à Poisat ou des places aux enfants à Grenoble par exemple. Voici maintenant notre quiz. Savez-vous partager la route? Trottinette, vélo, voiture, piéton, êtes-vous au point sur les bons réflexes à adopter pour une cohabitation sereine? Testez vos connaissances avec notre quiz. Nous allons vous poser 10 questions, avec 3 propositions de réponse à chaque question. Vous avez 5 secondes pour réfléchir et donner votre réponse. À l'issue de ce délai, nous vous donnerons la réponse exacte. Prêt? Alors c'est à vous. Première question. Quelle excuse est valable pour rouler sur le trottoir à vélo? Réponse A. Il pleuvait. B. J'avais peur des voitures. C. Je suis un enfant de moins de 8 ans. La bonne réponse est la réponse C. En effet, seuls les enfants de moins de 8 ans peuvent rouler sur le trottoir en toute légalité. Question 2. En cas de collision entre une voiture à 50 km/h et un piéton, quelles sont les chances de survie du piéton? Réponse A, 20%, B, 40%, C, 60%. La bonne réponse est la réponse A. Les chances de survie d'un piéton lors d'un choc à 50 km/h sont de 20% contre 90% pour un choc à 30 km/h. Question 3. Les trottinettes électriques sont-elles autorisées sur les trottoirs? A. Non. Elles doivent rouler sur la chaussée ou les pistes cyclables. B. Oui. Sur la route, c'est trop dangereux. C. Oui, si la puissance moteur ne dépasse pas 2000 watts. C'est à vous. Là encore, c'est la réponse A. La circulation sur les trottoirs pour les trottinettes électriques est interdite. Un maire peut l'autoriser, mais ce n'est le cas dans aucune commune de la métropole. Question 4. Combien de passagers peut-on transporter en trottinette électrique? A. 0. B. 1. C. Illimité tant que ça tient. Bravo, vous avez trouvé, c'est bien la réponse A. Il est formellement interdit et dangereux, avec une trottinette électrique ou non, de transporter des passagers, et ce, quel que soit leur âge. Question 5. Est-ce que les motos et scooters peuvent aller dans le sas vélo au feu rouge devant les voitures? Réponse A. Oui, en position pour un wheeling au feu vert. Réponse B. Non, c'est pour sécuriser les vélos uniquement. Réponse C. Quel sas? Oui, très bien, la réponse est B, évidemment. Les véhicules motorisés doivent rester derrière le sas, même si aucun vélo ne s'y trouve. Les sas sont interdits aux deux roues motorisées. Voyons maintenant la question 6. À vélo, peut-on rouler à plusieurs côte à côte? Réponse A. Non, l'un derrière l'autre. Réponse B. Oui, mais à l'approche d'un véhicule, on se remet en file indienne. Réponse C. Oui, les voitures attendront. Réponse B, bien sûr. Les cyclistes ne doivent jamais rouler à plus de 2 de front sur la chaussée. Donc 2, ok, mais pas 3 ni 4. Et ils doivent rouler en file indienne dès l'approche d'un véhicule. Question 7. Je circule à vélo. Puis-je passer au feu rouge? Réponse A, oui, si un certain panneau est apposé sous le feu. Réponse B, non, je m'arrête comme tout le monde. Réponse C, quel feu rouge? Vous avez hésité? Normal. En fait, la bonne réponse est la réponse A. M12 est le nom donné aux panneaux apposés sous les feux tricolores qui permettent aux cyclistes de passer au feu rouge en toute légalité. Mais attention, les usagers provenant des autres directions restent prioritaires dans ces carrefours et il faut leur céder la priorité. Question 8. Les motards ont-ils le droit de circuler entre deux files de voitures? Réponse A. Non, les motards doivent rester dans les bouchons comme tout le monde. Réponse B. Oui, mais uniquement pour livrer des pizzas encore chaudes. Réponse C. Oui, lorsque la circulation est dense et que l'espace est suffisant. C'est à vous. Vous êtes motard, alors vous devez le savoir. La bonne réponse est la réponse C. La circulation en interfile est autorisée pour les deux roues et les trois roues motorisées à une allure de 50 km/h maximale, 30 km/h si une file est à l'arrêt. Question 9. Hors agglomération, de quel côté de la route doit marcher un piéton? A. À droite, dans le même sens que les voitures. B. À gauche, dans le sens inverse des voitures. C. Du côté où le soleil tape moins fort. Bravo, vous avez trouvé encore une fois, c'est bien la réponse B. Hors agglomération, et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité, ou sauf circonstances particulières, le piéton doit se tenir près du bord gauche de la chaussée. Et enfin, dernière question, la question 10. S'il y a une piste cyclable, les cyclistes peuvent-ils rouler sur la route? Réponse A. Cela dépend du panneau bleu rond, piste cyclable obligatoire, ou carré, piste cyclable conseillée. Réponse B. Ils font comme ils préfèrent, tant qu'ils maintiennent leur moyenne. Réponse C. Un vélo n'a rien à faire sur la route avec les voitures. Très bien, la réponse est bien A. Le panneau rond bleu avec un vélo indique qu'il est obligatoire d'emprunter la piste cyclable. Le même panneau, version carrée, est une simple recommandation. Voilà, maintenant que vous avez bien transpiré sur les questions et que vous avez les réponses, voyons un peu quel est votre niveau. Entre 9 et 10 bonnes réponses, vous avez le niveau expert. Vous connaissez le code de la route sur le bout des doigts, mais gardez-les quand même sur le volant. ou sur le guidon. Entre 5 et 9 bonnes réponses. Peut mieux faire. C'était il y a longtemps le code de la route, une révision s'impose. Entre 0 et 5 bonnes réponses. Désolé, mais vous n'avez pas les bases. Relire le code de la route, c'est impératif.
Qualité de l'air. Les questions que vous vous posez sur la ZFE. Vous ne comprenez rien à ce qu'il se passe autour des zones à faible émission ? Métropole Mag répond à vos questions les plus fréquentes. Une ZFE. Pourquoi ? Comment ? Rendue obligatoire par la loi Climat et Résilience, la ZFE est un dispositif qui vise à améliorer la qualité de l'air et protéger la santé des habitants en réduisant durablement la pollution causée par le trafic routier. La pollution de l'air est notamment responsable de maladies respiratoires, cardiovasculaires et de cancers. Santé publique France estime que près de 300 personnes décèdent en raison de la pollution de l'air chaque année dans l'agglomération grenobloise. Afin de s'adapter au mieux aux réalités de chacun, et parce que les transitions ne se font pas sans accompagnement, la ZFE de Grenoble-Alpes-Métropole a été travaillée autour de dispositifs de conseil, d'accompagnement et d'aide financière pour changer de mobilité. Après une concertation publique, la ZFE pour les voitures et deux roues motorisées a été mise en place de manière non permanente, pas la nuit ni le week-end, et des dérogations ont été instaurées, travail en horaire décalé, petits rouleurs, etc. État ou métropole, qui décide de la ZFE? Si la métropole a été volontaire, elle a aussi répondu à une obligation légale. En 2020, après une condamnation par la Cour de justice de l'Union européenne, la justice française a imposé des mesures concrètes pour améliorer la qualité de l'air dans les zones les plus touchées par la pollution, incluant la métropole de Grenoble. Par ailleurs, la préfecture de l'Isère, représentante de l'État dans le département, a adopté en 2022 un plan de protection de l'atmosphère avec un ensemble d'actions incluant la ZFE visant à atteindre des objectifs ambitieux en matière de qualité de l'air. Les ZFE ont-elles été supprimées ? Le 17 juin, les députés ont voté la suppression des zones à faible émission, une mesure intégrée dans un projet de loi au champ beaucoup plus vaste, la loi de simplification de la vie économique. Le processus législatif n'est pas terminé et cette décision reste suspendue à plusieurs étapes avant d'être véritablement actée. La prochaine est une commission paritaire composée de 7 députés et 7 sénateurs chargés de trouver un compromis. Est-ce que la ZFE grenobloise sert à quelque chose? Grâce aux efforts de tous et aux accompagnements mis en place par la métropole et le syndicat mixte des mobilités de l'air grenobloise, les concentrations de polluants dans l'air ont considérablement baissé. Depuis 2022, la qualité de l'air dans la métropole grenobloise est passée en deçà du seuil réglementaire actuellement en vigueur, mais elle reste classée zone de vigilance. Les seuils actuels restent supérieurs à ceux recommandés par l'Organisation mondiale de la santé et l'Europe s'apprête à durcir les normes en la matière à horizon 2030. Cumulée avec des mesures sur le chauffage au bois et l'industrie, la ZFE est bien l'un des leviers qui ont contribué à diviser par deux au cours des 15 dernières années la pollution de l'air dans la métropole grenobloise. Dans l'attente d'une loi promulguée et de ses décrets d'application, la métropole poursuit donc la dynamique de la ZFE dans le respect du cadre légal actuel. À noter que les véhicules critère 3 qui sont concernés par la ZFE depuis le 1er janvier bénéficient d'une période pédagogique sans verbalisation jusqu'au 1er juillet 2026. Toutes les informations sur la ZFE et les aides sur zfe.grenoblealpesmétropole.fr.
Solidarité. Se déplacer, l'une des clés pour accéder à l'emploi. Une soixantaine de demandeurs d'emploi ont participé à une initiative originale menée par la métropole qui vise à rencontrer des entreprises du territoire tout en expérimentant différents modes de déplacement. Quel bus doit-on prendre pour rejoindre l'entreprise RGIS à Gières? À quel arrêt faut-il descendre? Accompagnés de Fares, Consuelo, Boaïba, Morène et Fatima, Véronique Eustache, chargée de relations entreprises à la métropole, se laisse guider par son groupe. Quelques jours auparavant, l'équipe a préparé l'itinéraire en question avec Nicolas Cozide, conseiller en mobilité. Les candidats savent faire plein de choses, mais ils ont souvent besoin de quelqu'un pour les aider ou les accompagner, explique-t-il. L'objectif, c'est de leur montrer qu'avec quelques connaissances, ils peuvent être autonomes dans leurs déplacements. Parmi la soixantaine de participants, tous orientés par des partenaires, maisons de l'emploi, structures ou associations d'insertion, France Travail, les profils sont variés. Certains n'ont pas le permis ou pas de voiture personnelle. D'autres ne maîtrisent pas bien le français et ont du mal à se repérer, ou encore rencontrent des difficultés personnelles. L'idée est donc de leur apporter les compétences essentielles pour se déplacer. Savoir lire un plan, combiner les modes de transport, construire un itinéraire en tenant compte du temps du trajet. Un quart des Français ont déjà renoncé à un emploi faute de moyens pour s'y rendre. Un travail qui prend tout son sens quand on sait que près d'un quart des Français déclarent avoir déjà renoncé à un emploi ou à une formation faute de moyens pour s'y rendre. Ce chiffre augmente encore chez les jeunes et les personnes les plus vulnérables. Au total, 16 équipes ont rejoint 8 entreprises partenaires en bus, tram, vélo, trottinette ou voiture cities. Sur place, les candidats ont pu découvrir les activités de l'entreprise, échanger avec les recruteurs et pour certains déposer leur CV. Cette initiative qui combine apprentissage pratique de la mobilité et immersion dans le monde de l'entreprise était reconduite pour la 2e année consécutive. Les 8 entreprises partenaires, RGIS, Cycles Ego, L'Arbre Fruité, Lidl, Ellis Room, Kiabi, Le Gendre et U-Express. Le chiffre 400, c'est le nombre de personnes en situation d'insertion professionnelle accompagnées par la plateforme métropolitaine Mobilité Emploi en 2024. Concrètement, après que l'usager a effectué un bilan personnalisé, la structure lui apporte des conseils sur les différents modes de déplacement, transport en commun, vélo, deux roues motorisées, covoiturage, et lui propose des stages et ateliers de formation afin de gagner en autonomie. L'usager peut par exemple apprendre à faire du vélo, à gérer son stress, à s'orienter, voire à passer son permis de conduire grâce à un partenariat avec une auto-école sociale.
Info sur emploi.grenoblealpemétropole.fr.
Service public, solidarité. Comment la métropole facilite l'accueil des migrants? Plus de 1000 étrangers hors UE arrivent dans la métropole chaque année pour travailler, rejoindre leur famille ou fuir des dangers. Comment construire sa vie sur notre territoire? Grenoble-Alpes-Métropole et de nombreuses associations guident les migrants pas à pas vers l'intégration. Ils viennent majoritairement de Tunisie, d'Algérie, de Guinée, du Maroc, de Turquie ou d'Afghanistan. Ils sont 1000 chaque année à fouler pour la première fois le sol de la métropole grenobloise. Parmi eux, 300 à 400 sont des réfugiés. Après un premier parcours pour un visa ou titre de séjour, le chemin vers leur intégration est encore long. Trouver un logement, une formation, un travail, se créer une vie sociale, tout est à inventer. C'est là que la métropole intervient. En 2019, Grenoble-Alpes-Métropole signe avec l'État un contrat territorial d'accueil et d'intégration, CTAI, marquant ainsi sa volonté de mettre en œuvre des actions concrètes à l'intention des étrangers récemment arrivés sur le territoire. Ces actions menées en coopération avec des associations répondent aux besoins en matière d'accès aux soins, de logement, d'emploi, de formation linguistique ou encore d'offres sportives et culturelles. Chaque année, une dizaine d'actions en faveur de l'intégration sont financées par la métropole, explique Héloïse Sanchez-Rodriguez, coordinatrice du CTAI. Un éventail de solidarité s'ouvre alors aux étrangers arrivant sur le territoire, mais comment s'y retrouver? Territoire hospitalier. Pour un tour d'horizon des possibles, les immigrés et leurs accompagnants peuvent pousser les portes du Bivouac Café à Grenoble et participer au Café de l'Hospitalité. C'est une matinée conviviale où l'on accueille un lundi sur deux un public migrant qui a besoin de créer du lien et d'être orienté, ajoute Héloïse Sanchez-Rodriguez. On invite des partenaires qui tiennent des stands où chacun peut s'informer et il y a toujours une animation collective comme un jeu ou du sport. Deux fois par an, ce café prend de l'ampleur et se transforme en forum de l'hospitalité. Le 16 juin dernier, ce sont près de 80 personnes, réfugiées, titulaires de visa ou de carte de séjour, qui sont venues à la rencontre des associations et structures qui pourront les aider. Sur le stand de la métropole dédié au logement, Daniel, un jeune érythréen, s'interroge sur la demande de logement social qu'il a faite avec son assistante sociale. Mère de famille ivoirienne, Gomani est allée rencontrer Weavers, une association pour l'insertion professionnelle des exilés et réfugiés, financée par la métropole. J'ai pris des informations sur les formations, je voudrais travailler à l'atelier Lucie Koudaz. L'atelier Lucie Koudaz est le centre de tri de vêtements d'Emmaüs Grenoble. Arrivée à Grenoble en 2022, elle raconte avoir d'abord été aidée par l'association Un Toit pour Tous qui met en œuvre des solutions d'hébergement à loyer très modéré. « Ce n'est pas dur de s'intégrer, c'est juste qu'il faut avoir beaucoup de courage », confie Gomani. On la retrouvera sur l'atelier animé par la plateforme Mobilité Emploi de la métropole où les participants apprennent à tracer un trajet pour se rendre à un entretien d'embauche à l'aide d'un plan et si besoin d'une boussole. À côté, les intervenantes du POPS. Précarité Santé 38, qui favorise l'accès à la santé des personnes en situation de précarité, explique l'importance d'avoir les droits à l'assurance maladie, mais aussi la complémentaire santé solidaire. 14 femmes et hommes écoutent les conseils et posent toutes leurs questions. Pour faciliter leur intégration sur le territoire métropolitain, les personnes migrantes ont été associées en 2023 à l'élaboration des politiques d'accueil. Grâce à un appel à projet européen, nous avons mis en place l'Agora et créé des laboratoires de l'hospitalité, des instances de participation pour associer les primo-arrivants, explique Héloïse Sanchez-Rodriguez. Ces projets sont terminés depuis quelques mois, mais les recommandations formulées par les participants continuent d'être suivies dans l'élaboration des politiques métropolitaines d'accueil. Un parcours administratif. Les premières démarches d'un étranger arrivant en France se font auprès du consulat français dans son pays d'origine pour l'obtention d'un visa ou bien à la préfecture pour un titre de séjour. Les personnes réfugiées souhaitant bénéficier d'une protection internationale accordée par l'État à un étranger persécuté dans son pays déposent une demande d'asile auprès de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Tous les primo-arrivants doivent ensuite passer par l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour signer un contrat d'intégration républicaine qui les engage à respecter les valeurs de la société française et de la République et à suivre des formations obligatoires. Lexique de la migration. Migrant. Toute personne qui réside dans un pays étranger pendant plus d'une année. Nations Unies. Immigré. Personne née à l'étranger sans avoir la nationalité française et résidant en France. Primo-arrivant. Ressortissant d'un pays hors Union européenne, nouvellement arrivé en France afin de s'y installer durablement. Demandeur d'asile. Personne qui sollicite la protection internationale, pas encore reconnue comme réfugié. Réfugié. personne bénéficiaire de la protection internationale en raison d'un risque de persécution dans son pays. Cécile Delatte, vice-présidente chargée de l'emploi, de l'insertion et de la jeunesse, conseillère municipale de Grenoble, nous déclare « Notre territoire doit être un exemple de solidarité et d'ouverture. En travaillant main dans la main avec les associations, nous nous engageons à construire un environnement où chaque personne peut se reconstruire et trouver sa place. » Au-delà des traumas, recevoir des personnes migrantes qui ont un traumatisme et participer à leur insertion, c'est la raison d'être de l'association Éclat depuis 3 ans, financée par la métropole. Nos bénéficiaires ont la tête pleine. Ils ont mal, oublient, dorment mal, font des cauchemars ou ont même des hallucinations, raconte Jenny, médiatrice de l'association. Avec le médecin et les bénévoles, elle accompagne les personnes victimes de stress post-traumatique qui leur ont été envoyées par d'autres associations. On ne leur demande pas de raconter leur histoire ou leur vécu, mais on prend en compte leur détresse et en fonction, on propose du sport, du yoga, des groupes de parole, des activités manuelles ou de l'expression corporelle, jusqu'à ce qu'ils se sentent mieux. En 2024, Éclat a accompagné 167 personnes. Nous devons savoir communiquer en français. La principale difficulté dans ce parcours d'insertion, c'est l'apprentissage du français. Il y a beaucoup de demandes et pas assez d'offres, explique Héloïse Sanchez-Rodriguez, la coordinatrice du contrat territorial d'accueil et d'intégration. C'est le cas d'Ibrahim, nigérien, et Tanzin, tibétain, tous deux étudiants au Greta de Grenoble. Ils maîtrisent l'anglais mais souhaitent apprendre le français pour chercher un logement, un travail et pour les relations sociales. Au Greta, on alerte. À partir de cet été, cette formation linguistique n'existera plus. Les étudiants devront se former seuls. Nous les aidons donc à rencontrer les bons interlocuteurs. Nos élèves ont tous des parcours et des besoins différents, mais la langue française reste le besoin le plus important pour s'intégrer. Les étudiants pourront se tourner vers IRIS, Centre de ressources illettrisme de l'Isère, la Fédération Léo Lagrange, ou bien l'ALP, 3 structures prestataires de la métropole pour l'enseignement du français.
Service public. Environnement. Une brigade unique en France pour protéger la nature. Créée grâce à un partenariat inédit entre la Gendarmerie nationale et Grenoble-Alpes-Métropole, la brigade de vigilance environnementale est chargée de lutter contre les atteintes à l'environnement, en verbalisant si besoin. Ils sont 10. 10 gendarmes réservistes qui se sont portés volontaires pour un objectif commun, protéger l'environnement. Intégrés à la toute nouvelle brigade de vigilance environnementale, ces hommes et ces femmes interviennent sur le terrain pour lutter contre les atteintes à la nature. Ce dispositif unique en France est le fruit d'un partenariat entre la Gendarmerie nationale et la métropole. En 2024, plus de 270 atteintes à l'environnement, dépôts sauvages, dégradation, ont été recensées dans les 42 communes de la métropole relevant de la Gendarmerie contre environ 130 en zone police. Exemple sur un chemin caillouteux peu fréquenté, longeant l'Isère et les étangs d'EDF au nord de l'agglomération. Non loin de la station d'épuration métropolitaine Aquapole, dans le creux d'un virage du Fontanil-Cornillon, un amoncellement de planches de bois, de morceaux de plastique et de voitures, de carton avec à l'intérieur des bonbonnes de protoxyde d'azote. Une mini-décharge à ciel ouvert. Pédagogie avant tout. L'adjudant-chef Fabrice, la gendarme de la réserve Ariane et la brigadière-chef Emma constatent les dégâts dépités. Ce genre de dépôt, c'est leur quotidien. Pour les documenter et les recenser, la brigade a développé une application où ils sont décrits et géolocalisés. Celui-ci avait été repéré il y a quelques jours et depuis il a enflé. « Les ordures appellent les ordures », soupire Fabrice. Après le constat, la brigade de vigilance environnementale fait ce que font tous les gendarmes devant une infraction. Elle mène l'enquête pour tenter de retrouver les auteurs. Fabrice précise, on cherche des indices, un numéro de série, une facture. Car oui, cela nous arrive de retrouver des factures dans l'état d'ordure. Un jour, on a même retrouvé un rideau de fer avec le nom du restaurant inscrit dessus. Une fois l'auteur identifié, les gendarmes lui demandent de nettoyer et de remettre en état le site naturel. Nous privilégions l'approche pédagogique. Donc, s'il le fait, notre action s'arrête là. Mais s'il ne le fait pas, on le verbalise, déclare Ariane. Les amendes s'échelonnent de 68 euros à 1500 euros. La brigade poursuivra ses patrouilles dans les espaces naturels de la métropole, aux abords des déchetteries ou dans les parcs communaux jusqu'au 30 septembre. Le chiffre 90, le nombre d'interventions réalisées par la brigade de l'environnement cet été. Les dépôts qui plombent. Les dépôts sauvages constituent une source de pollution pour les sols, l'eau et l'air, tout en représentant un risque d'incendie, de blessures ou d'intoxication, sans oublier les nuisances visuelles et olfactives.
Service public. Équipement. La métropole reprend la gestion du stade des Alpes. Depuis le 29 juin, Grenoble-Alpes Métropole a repris en régie directe la gestion du stade des Alpes. Objectif : assurer la continuité des compétitions, maîtriser les coûts et maintenir le stade comme lieu phare d'événements sportifs et culturels. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour le stade des Alpes. Depuis le 29 juin 2025, Grenoble-Alpes Métropole en assure directement la gestion. Grenoble-Alpes Sport, GAS, société portée par les clubs du GF38 et du FCG, avait décidé de dénoncer les termes de la convention. Malgré les négociations, aucun accord n'a pu être trouvé avec GAS. Dans ce cas, la reprise en main par la collectivité en régie est automatique. Objectif : garantir la tenue des matchs dès la reprise des championnats en août. Pour cela, la métropole a conclu de nouveaux accords avec les deux clubs résidents. Le GF38 et le FCG s'acquitteront de 30 000 euros par match et bénéficieront aussi d'un accès aux espaces de réception du stade. Ces tarifs sont supérieurs à ceux pratiqués sous l'ancienne gestion, mais le coût réel de fonctionnement du stade est estimé à 45 000 euros par match. La métropole contribuera à hauteur de 500 000 euros sur la saison pour combler la différence. Un effort financier qui s'ajoute à un soutien déjà conséquent. La collectivité a investi plus de 2,5 millions d'euros en 2024-2025 pour accompagner les clubs et entretenir le stade. Grenoble-Alpes Métropole entend assurer la continuité sportive, la maîtrise budgétaire et l'accueil du public, une décision qui remet le sport professionnel au cœur de la gestion publique. Au-delà du football et du rugby, le stade continuera d'accueillir des événements internationaux. Le match France-Brésil féminin du 27 juin dernier, ou encore ceux à venir cet automne, opposant les Bleuets à l'Estonie le 13 octobre et aux îles Féroé le 17 novembre, en sont les premiers jalons. Des événements non sportifs pourront aussi être organisés dans le stade, à l'instar de la collecte de sang organisée au début de l'été par l'établissement français du sang, ou encore le festival Ultra Virage, piloté par l'association TDN. En bref, soutenir le maraîchage à Mélan. La métropole investit près de 660 000 euros pour rénover la Petite Grange, un bâtiment situé sur le site agricole de la Teia à Mélan. Il sera ensuite mis à disposition du GAEC de l'Entre-deux-Chênes afin de soutenir le développement de l'agriculture locale et d'une alimentation durable et saine sur le territoire. Les travaux de rénovation doivent s'achever en début d'année 2026. Stationner à moitié prix dans certains parkings. Nouveauté. Pour profiter au mieux d'une fin d'après-midi à Grenoble, les parkings Hoche-Centre et Sainte-Claire, les Halles, situés à 5 minutes de l'hypercentre, sont désormais accessibles à moitié prix à partir de 16 heures les mercredis et vendredis. En plus de mettre votre véhicule à l'abri, vous pouvez bénéficier de bornes de recharge électrique et de garages à vélo. Cette offre est une expérimentation menée jusqu'à la fin de l'année 2025. Site grenoblealpesmétropole.fr/segarer. Rejoignez le conseil de développement. L'idée d'explorer collectivement des sujets d'avenir, mobilité numérique, climat, et de formuler des propositions concrètes pour faire évoluer les politiques publiques vous motive? L'instance de participation citoyenne métropolitaine, qui réunit 66 habitants et habitants bénévoles pour réfléchir à la métropole de demain, cherche ses nouveaux membres pour le mandat 2025-2028. Candidatez jusqu'au 1er octobre 2025 sur le site c2d.grenoblealpesmétropole.fr.
Économie. Focus. Ici, l'économie des sports de plein air s'épanouit. Avec son environnement idéal pour les sports de plein air, la région grenobloise est aussi l'une des plus dynamiques de l'Hexagone pour ce secteur économique. C'est un atelier un peu particulier. Dans l'hôtel d'activité métropolitain Artis à Échirolles, Damien Lepetit fait revivre une tradition locale, la fabrique de skis artisanaux. Cet ancien ingénieur de 34 ans est à la tête d'une micro-entreprise, Amon Dava. Dans son atelier de 80 mètres carrés, il dessine, assemble et façonne des skis. Le bois, frêne et épicéa vient des Vosges et de Savoie, et la marqueterie est personnalisable. Un sommet, un prénom, un bouquetin. Les clients peuvent y graver ce qu'ils veulent. Je fais tout de A à Z. Alors cela donne forcément des skis différents, un peu uniques même, déclare le jeune dirigeant. Amon Dava fait partie à son échelle de l'économie grenobloise de l'outdoor. 4 massifs, 25 stations de ski à proximité immédiate, des centaines de kilomètres de sentiers, de voies vertes et d'itinéraires d'escalade. La région offre un accès privilégié à l'un des plus vastes terrains de jeux naturels de France. C'est logiquement dans ce décor que sont nés et se sont développées des entreprises spécialisées dans les sports de plein air. C'est ici qu'Abel Rossignol a conçu sa première paire de skis en bois au début du XXe siècle, que Jean Pomagalski a révolutionné l'accès au sommet en inventant les remontées mécaniques, et que Fernand Petzl a imaginé ses premières lampes frontales pour la spéléologie. Depuis, leurs entreprises respectives, Rossignol, Poma, Petzl, sont devenues des références mondiales. L'effet JO. Mais le tournant majeur intervient en 1968, lorsque Grenoble accueille les Jeux Olympiques d'hiver. Les JO permettent la construction d'infrastructures modernes et les épreuves retransmises pour la première fois en couleur à la télévision offrent au monde entier l'image d'un territoire en pointe sur les sports de nature. De nouvelles entreprises vont profiter de cet élan pour s'installer dans la région, comme GoSport ou Head, grossissant ainsi les rangs de l'écosystème naissant. Un demi-siècle plus tard, le département de l'Isère compte près de 90 entreprises spécialisées dans les activités outdoor, représentant environ 2000 emplois et un chiffre d'affaires estimé à 1,1 milliard d'euros. Il s'agit du deuxième pôle régional après la Haute-Savoie. Les entreprises trouvent ici un environnement idéal pour se développer, grâce notamment au tissu industriel local. Exemple avec Red Light, spécialiste du trail et de la randonnée. Son siège se trouve à Saint-Pierre-de-Chartreuse, mais l'entreprise a ouvert récemment un atelier de production à Veurey-Voiroise. Un choix stratégique, comme le souligne Nicolas Diedrich, responsable communication de l'entreprise. nous souhaitons nous rapprocher de nos partenaires, fournisseurs et sous-traitants pour développer la production textile. Grâce à des cursus de formation professionnelle, au lycée Argouge de Grenoble par exemple, la filière bénéficie aussi d'un bassin d'emploi adapté. Pour le recrutement, c'est plus facile ici, confirme Frédéric Tuscan, fondateur de 9A Climbing, une entreprise spécialisée dans les chaussons d'escalade, installée à Sassenage depuis 2014. Nous avons ici des compétences techniques et des savoir-faire que l'on ne trouve pas forcément ailleurs. D'ailleurs, l'entreprise a pour projet d'ouvrir une nouvelle ligne de production de chaussons haut de gamme avec, à la clé, de nouveaux recrutements. L'essayer, c'est l'adopter. Enfin, la filière profite ici d'un dernier avantage très précieux, la possibilité de tester en conditions réelles les équipements. Chez Vedlight, la boutique de Saint-Pierre de Chartreuse permet aux clients d'essayer les produits sur les sentiers alentours. De son côté, 9A Climbing leur propose un mur d'escalade intérieur. Une approche largement partagée dans la filière, comme le confirme Claire Lissajou d'Outdoor Sport Valley, une association qui rassemble la plupart des acteurs du secteur. Le test de matériel fait partie de l'ADN du secteur. Cela permet d'avoir les retours en direct des clients sur les produits, mais aussi de créer un esprit communautaire très important. De quoi renforcer le lien entre économie et terrain de jeu. Mélina Héringer, vice-présidente chargée du tourisme, de l'attractivité, de l'innovation, de l'université et de la qualité de vie, adjointe au maire de Meylan. 34 de nos 49 communes sont classées en zone montagne et plus d'un habitant sur trois y réside. C'est ce qui fait de Grenoble-Alpes la plus forte zone urbaine au cœur des massifs en Europe. C'est un cadre de vie unique et un formidable terrain d'expérimentation. Ici, les entreprises peuvent miser pleinement sur la recherche et le développement de leurs produits avec des sites tests littéralement à deux pas de leur bureau. Cette alliance entre nature et innovation est l'une de nos plus grandes forces et elle continue d'attirer et de renforcer l'attractivité de notre territoire. Les grands espaces dans un salon. L'économie outdoor ne se limite pas aux équipementiers. C'est aussi une multitude d'événements nationaux et internationaux qui animent le territoire, comme le Critérium du Dauphiné, désormais Tour Auvergne-Rhône-Alpes, la Grande Odyssée, l'UT4M, la Coupe Icare, le Tour de France. Ce sont également de nombreux rendez-vous réguliers destinés au grand public ou aux professionnels comme le Salon Destination Montagne, le Mountain Planet, les Rencontres Ciné-Montagne, le Salon de l'Escalade ou encore les Rencontres Nationales de l'Outdoor. La prochaine édition des RNO se déroulera d'ailleurs le mardi 23 septembre à Alpes Expo et rassemblera 400 professionnels de la filière. Info sur rencontre au pluriel national au pluriel outdoor.fr. Industrie, espoir de relance pour la chimie au Pont de Claix. Quelques mois après la reprise partielle de Vencorex par le groupe hongrois Borsodchem, un nouveau projet industriel a été présenté cet été, son nom Exalia. Porté notamment par Olivier Six, PDG du groupe Orio Industrie et conseiller métropolitain, et Séverine Dejoux, ancienne déléguée syndicale de Vencorex, ce projet veut développer sur la plateforme chimique du Pont de Claix une chimie décarbonée et souveraine. « Nous avons ici quelque chose d'incroyable », assure Olivier Sixte. « Nous avons une mine de sel à 80 km d'ici. Nous avons une plateforme classée Céveso où l'on peut faire tout ce qu'on veut en chimie. Nous avons de l'hydroélectricité et nous avons des compétences. En résumé, nous avons ici tout ce qu'il faut pour inventer la chimie de demain. » Trois étapes pour une renaissance industrielle. Le projet Exalia prévoit un plan de renaissance industrielle en trois étapes. D'abord, le redémarrage de la production de sel ultra purifié de soude et de chlore d'ici 2027. Ensuite, la restructuration de la plateforme avec le démantèlement des unités obsolètes et la remise à niveau des réseaux communs. Et enfin, la création d'une pépinière d'entreprise et d'un centre de R&D, ainsi que le développement de nouveaux projets pour produire par exemple du e-méthanol. À l'horizon 2030, le projet prévoit la création de 1000 emplois sur la plateforme. Cependant, son succès reste soumis à plusieurs conditions. L'accord du liquidateur judiciaire pour la reprise des actifs industriels non cédés à Borsodchem, notamment la salle d'électrolyse, et l'autorisation de l'État pour la reprise de la mine de sel de Haute-Rive. En attendant, Exalia a déjà reçu le soutien de plusieurs élus locaux, dont Christophe Ferrari, maire du Pont-de-Claix et président de la métropole, qui a salué une bonne nouvelle pour le territoire, pour l'emploi, mais aussi une bonne nouvelle pour la filière de la chimie et plus globalement pour l'industrie de ce pays. Économie. Focus. Ici, l'économie des sports de plein air s'épanouit. Avec son environnement idéal pour les sports de plein air, la région grenobloise est aussi l'une des plus dynamiques de l'Hexagone pour ce secteur économique. C'est un atelier un peu particulier. Dans l'hôtel d'activité métropolitain Artis à Échirolles, Damien Lepetit fait revivre une tradition locale, la fabrique de skis artisanaux. Cet ancien ingénieur de 34 ans est à la tête d'une micro-entreprise, Amont Dava. Dans son atelier de 80 mètres carrés, il dessine, assemble et façonne des skis. Le bois, frêne et épicéa vient des Vosges et de Savoie, et la marqueterie est personnalisable. Un sommet, un prénom, un bouquetin. Les clients peuvent y graver ce qu'ils veulent. Je fais tout de A à Z. Alors cela donne forcément des skis différents, un peu uniques même, déclare le jeune dirigeant. Amon Dava fait partie à son échelle de l'économie grenobloise de l'outdoor. 4 massifs, 25 stations de ski à proximité immédiate, des centaines de kilomètres de sentiers, de voies vertes et d'itinéraires d'escalade. La région offre un accès privilégié à l'un des plus vastes terrains de jeux naturels de France. C'est logiquement dans ce décor que sont nés et se sont développées des entreprises spécialisées dans les sports de plein air. C'est ici qu'Abel Rossignol a conçu sa première paire de skis en bois au début du XXe siècle, que Jean Pomagalski a révolutionné l'accès au sommet en inventant les remontées mécaniques, et que Fernand Petzl a imaginé ses premières lampes frontales pour la spéléologie. Depuis, leurs entreprises respectives, Rossignol, Poma, Petzl, sont devenues des références mondiales. L'effet JO. Mais le tournant majeur intervient en 1968, lorsque Grenoble accueille les Jeux Olympiques d'hiver. Les JO permettent la construction d'infrastructures modernes et les épreuves retransmises pour la première fois en couleur à la télévision offrent au monde entier l'image d'un territoire en pointe sur les sports de nature. De nouvelles entreprises vont profiter de cet élan pour s'installer dans la région comme GoSport ou Head, grossissant ainsi les rangs de l'écosystème naissant. Un demi-siècle plus tard, le département de l'Isère compte près de 90 entreprises spécialisées dans les activités outdoor, représentant environ 2000 emplois et un chiffre d'affaires estimé à 1,1 milliard d'euros. Il s'agit du deuxième pôle régional après la Haute-Savoie. Les entreprises trouvent ici un environnement idéal pour se développer, grâce notamment au tissu industriel local. Exemple avec Red Light, spécialiste du trail et de la randonnée. Son siège se trouve à Saint-Pierre-de-Chartreuse, mais l'entreprise a ouvert récemment un atelier de production à Veurey-Voiroise. Un choix stratégique, comme le souligne Nicolas Diedrich, responsable communication de l'entreprise. nous souhaitons nous rapprocher de nos partenaires, fournisseurs et sous-traitants pour développer la production textile. Grâce à des cursus de formation professionnelle, au lycée Argouges de Grenoble par exemple, la filière bénéficie aussi d'un bassin d'emploi adapté. Pour le recrutement, c'est plus facile ici, confirme Frédéric Tuscan, fondateur de 9A Climbing, une entreprise spécialisée dans les chaussons d'escalade, installée à Sassenage depuis 2014. Nous avons ici des compétences techniques et des savoir-faire que l'on ne trouve pas forcément ailleurs. D'ailleurs, l'entreprise a pour projet d'ouvrir une nouvelle ligne de production de chaussons haut de gamme avec, à la clé, de nouveaux recrutements. L'essayer, c'est l'adopter. Enfin, la filière profite ici d'un dernier avantage très précieux, la possibilité de tester en conditions réelles les équipements. Chez Vedlight, la boutique de Saint-Pierre de Chartreuse permet aux clients d'essayer les produits sur les sentiers alentours. De son côté, 9A Climbing leur propose un mur d'escalade intérieur. Une approche largement partagée dans la filière, comme le confirme Claire Lissajou d'Outdoor Sport Valley, une association qui rassemble la plupart des acteurs du secteur. Le test de matériel fait partie de l'ADN du secteur. Cela permet d'avoir les retours en direct des clients sur les produits, mais aussi de créer un esprit communautaire très important. De quoi renforcer le lien entre économie et terrain de jeu. Mélina Héringer, vice-présidente chargée du tourisme, de l'attractivité, de l'innovation, de l'université et de la qualité de vie, adjointe au maire de Meylan. 34 de nos 49 communes sont classées en zone montagne et plus d'un habitant sur trois y réside. C'est ce qui fait de Grenoble-Alpes la plus forte zone urbaine au cœur des massifs en Europe. C'est un cadre de vie unique et un formidable terrain d'expérimentation. Ici, les entreprises peuvent miser pleinement sur la recherche et le développement de leurs produits avec des sites tests littéralement à deux pas de leur bureau. Cette alliance entre nature et innovation est l'une de nos plus grandes forces et elle continue d'attirer et de renforcer l'attractivité de notre territoire. Les grands espaces dans un salon. L'économie outdoor ne se limite pas aux équipementiers. C'est aussi une multitude d'événements nationaux et internationaux qui animent le territoire, comme le Critorium du Dauphiné, désormais Tour Auvergne-Rhône-Alpes, la Grande Odyssée, l'UT4M, la Coupe Icare, le Tour de France. Ce sont également de nombreux rendez-vous réguliers destinés au grand public ou aux professionnels comme le salon Destination Montagne, le Mountain Planet, les rencontres Ciné-Montagne, le salon de l'escalade ou encore les rencontres nationales de l'outdoor. La prochaine édition des RNO se déroulera d'ailleurs le mardi 23 septembre à Alpes Expo et rassemblera 400 professionnels de la filière. Info sur rencontre au pluriel national au pluriel outdoor.fr. Industrie, espoir de relance pour la chimie au Pont de Claix. Quelques mois après la reprise partielle de Vencorex par le groupe hongrois Borsodchem, un nouveau projet industriel a été présenté cet été. Son nom, Exalia. Porté notamment par Olivier Six, PDG du groupe Orio Industrie et conseiller métropolitain, et Séverine Dejoux, ancienne déléguée syndicale de Vencorex, ce projet veut développer sur la plateforme chimique du Pont de Claix une chimie décarbonée et souveraine. « Nous avons ici quelque chose d'incroyable », assure Olivier Six. Nous avons une mine de sel à 80 km d'ici. Nous avons une plateforme classée Céveso où l'on peut faire tout ce qu'on veut en chimie. Nous avons de l'hydroélectricité et nous avons des compétences. En résumé, nous avons ici tout ce qu'il faut pour inventer la chimie de demain. Trois étapes pour une renaissance industrielle. Le projet Exalia prévoit un plan de renaissance industrielle en trois étapes. D'abord, le redémarrage de la production de sel ultra purifié de soude et de chlore d'ici 2027. Ensuite, la restructuration de la plateforme avec le démantèlement des unités obsolètes et la remise à niveau des réseaux communs. Et enfin, la création d'une pépinière d'entreprise et d'un centre de R&D, ainsi que le développement de nouveaux projets pour produire par exemple du e-méthanol. À l'horizon 2030, le projet prévoit la création de 1000 emplois sur la plateforme. Cependant, son succès reste soumis à plusieurs conditions. L'accord du liquidateur judiciaire pour la reprise des actifs industriels non cédés à Borsodchem, notamment la salle d'électrolyse, et l'autorisation de l'État pour la reprise de la mine de sel de Haute-Rive. En attendant, Exalia a déjà reçu le soutien de plusieurs élus locaux, dont Christophe Ferrari, maire du Pont-de-Claix et président de la métropole, qui a salué une bonne nouvelle pour le territoire, pour l'emploi, mais aussi une bonne nouvelle pour la filière de la chimie et plus globalement pour l'industrie de ce pays.
Territoire. À table, des macarons pour les restaurants engagés. À la recherche d'un restaurant respectueux de l'environnement, cherchez les macarons du label Écotable, une initiative soutenue par la métropole. 1, 2 ou 3 macarons, il n'est pas question ici de pâtisserie, mais d'une nouvelle distinction nationale. Le label Écotable, qui met à l'honneur les restaurants engagés dans la transition écologique. 1, 2 ou 3 macarons. Les établissements sont distingués selon leur niveau d'engagement, utilisation de produits bio et de saison, plats végétariens, recettes anti-gaspillage, tri des déchets, vaisselle réutilisable, absence de produits ultra-transformés, etc. Parmi les restaurants déjà labellisés sur le territoire, Fit et Gourmande se distinguent par une approche 100% végétarienne. Situé boulevard Foch, à Grenoble, ce petit établissement mise sur une cuisine saine et éthique avec au menu des wraps, burgers, salades et pâtisseries. C'est une cuisine que j'aime faire. Végétarienne, parfois végane, sans trop de sucre ni de lactose, explique Mathilde Descaux, cofondatrice. Avec son premier macaron écotable, Fit et Gourmande voit son engagement reconnu. Travailler avec des produits bio et bas carbone demande du temps et de l'énergie, souligne-t-elle. Par exemple, trouver un producteur français de soja a été un vrai défi. Aujourd'hui, ce macaron récompense tous nos efforts. Nous sommes épuisés, mais ravis. Même sentiment, celui d'une récompense bien méritée dans les cuisines de « Au bon sens des mets ». Une entreprise traiteur fondée en 2009, présente à Grenoble et à Tulin. Déjà détentrice d'un macaron, l'entreprise vient de décrocher le second. Ces deux macarons valorisent notre travail, confirme Muriel Gault, co-dirigeante. Ils permettent de nous démarquer et de rendre visibles nos engagements qui ne datent pas d'hier. Avec une équipe d'une douzaine de salariés, Au bon sens des mets, défend une cuisine 100% maison, bio, locale et sans produits transformés. Et le troisième macaron, alors? Il est à portée, on n'en est pas loin. On peut encore progresser, notamment sur la traçabilité de la viande. Voici ce que nous dit Barbara Schumann, conseillère métropolitaine déléguée au commerce, à l'artisanat et à la logistique urbaine durable, conseillère municipale de Grenoble. Le label Écotable est bien plus qu'une distinction, c'est un choix en faveur d'une gastronomie engagée. Soutenir les restaurateurs qui adoptent cette démarche est une évidence pour la métropole et l'aboutissement d'un travail partenarial avec l'écosystème. En prenant en charge 80% du coût de la labellisation, nous permettons à ces établissements de valoriser leur engagement auprès d'une clientèle de plus en plus attentive à ce qu'elle trouve dans son assiette. Les labellisés écotables dans l'aire grenobloise. Déjà labellisés. Le bouillon A, Le café A et la maison A de Christophe Haribert. Le bar Radis. Fit et gourmande. Au bon sens des mets. Le club ST Microélectronique à Crolle, triple macaron, est lauréat du prix de la restauration collective engagée. En cours de labellisation, l'aiguillage, canopie, le palais de la bière, Zakang. Le chiffre, 80%. La métropole prend en charge 80% du coût de la labellisation la première année pour 10 établissements de l'agglomération. Vélorail. Du charbon au tourisme, la nouvelle vie du chemin de fer. À Saint-Georges-de-Commiers, c'était le premier été du Vélorail des Alpes, créé sur l'ancienne ligne ferroviaire de la Mure avec le soutien de la métropole. On a testé cette nouvelle attraction touristique qui a déjà accueilli plus de 20 000 visiteurs. Tchaka, tchaka, tchaka. Le bruit familier du chemin de fer résonne alors que l'on quitte la petite gare de Saint-Georges-de-Commiers. Deux selles, deux pédaliers, dont un muni d'une assistance électrique, et à l'arrière, une banquette en toile pour deux passagers. Dans les herbes folles, un cimetière de vieux wagons en bois nous plonge dans l'ambiance. Cette ligne ferroviaire, reliant Saint-Georges à la Mure, avait été construite en 1888 afin de transporter le charbon de la Matésine jusqu'à Grenoble. Depuis le printemps 2025, une nouvelle page de son histoire mouvementée est ouverte. La partie basse de la voie ferrée accueille désormais un vélorail dédié au tourisme. Ouch ! Une vague d'air frais nous enveloppe à l'entrée dans le premier des quatre tunnels du parcours, le tunnel du Ravinson. Pénombre et pierre fraîche bienvenues en période de canicule. Seule la petite lampe de notre vélorail nous éclaire. La voie monte doucement, 160 mètres de dénivelé sur 7 km, avalée sans effort grâce à l'assistance électrique. Quand la végétation s'écarte, les panoramas sur les îles du Drac sont superbes. Terminus sur un superbe belvédère. À l'arrivée, on descend devant la souriante gare de Notre-Dame-de-Commiers, fermée en 1950. Le belvédère, doté d'un balcon, de sanitaires et de tables de pique-nique, vaut le coup. Sous nos yeux s'étend l'eau bleue du lac de Notre-Dame-de-Commiers, qui précède le majestueux Monténard. Pour repartir, il faut faire demi-tour, la voie étant à sens unique. C'est le seul point qui demande un peu d'effort physique. Il faut soulever le vélorail de 160 kg sur un côté et le faire pivoter sur ses roues d'acier. On vous rassure, ça se fait sans trop de mal, même sans être un accro de la salle de sport. Tchakata, tchakata, tchakata. À la descente, les sensations sont là alors qu'on dévale les rails à 25 km/h. Un levier permet de freiner et contrôler sa vitesse et, à Écoloisir, la société qui gère le vélorail des Alpes, on nous garantit que le risque de déraillement est proche de zéro. Dernier conseil, adressé aux cyclistes, sur le pédalier à assistance électrique, vous aurez envie, pour accélérer, d'appuyer un peu. Las, vous allez mouliner comme un beau diable sans prendre de vitesse. Oubliez vos réflexes. Il faut pédaler doucement pour laisser le petit moteur électrique faire tout le travail. En pratique, le vélorail des Alpes fonctionne d'avril à octobre. Comme il n'y a qu'une seule voie, il faut respecter les horaires de départ. Les réservations se font en ligne ou par téléphone. Le prix de l'aller-retour est de 15 euros pour les adultes, 10 euros pour les moins de 16 ans, est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. Tarif réduit pour familles à partir de 2 enfants. Plus d'infos sur ecoloisir.fr/vélorail-d-alpes. S'y rendre. En bus, M Réseau depuis Grenoble, Vars ou Vif, la ligne C14 vous dépose devant la gare de Saint-Georges-de-Commiers. En train, depuis Grenoble, le trajet prend à peine 20 minutes avec des arrêts à Pont-de-Clé, l'Étoile et Jarry-Visile. Sortir dans la métropole. Agenda. Événement. Climat Libé Tour, 2e. Les 24 et 25 septembre à la MC2, Grenoble. Gratuit sur inscription. Quand la science résiste. C'est le thème de la prochaine édition du Climat Libé Tour, organisé par le quotidien Libération, en partenariat avec la métropole. Parmi les invités, Camille Parmesan, écologue américaine et réfugiée scientifique. Hugo Duminil-Copin, mathématicien lauréat de la médaille Fields en 2022. Lorraine Boudard, cofondatrice du média Climax. Ou encore Dominique Bourg, philosophe et universitaire franco-suisse. Plus d'infos sur Climat. lib-tour.libération.fr ou mc2grenoble.fr. Refuge. Avis aux amis des bêtes. Les 27 et 28 septembre à l'Apagie, Le Versoux. Le refuge animalier métropolitain L'Apagie, APAGI, organise un week-end portes ouvertes afin de permettre au plus grand nombre de venir rencontrer ses nombreux chiens et chats dans l'attente d'une nouvelle famille, définitive cette fois-ci. De nombreuses animations sont prévues sur place. Environnement. À chaque mois, ses solutions. Après le mois de la mobilité en septembre, le mois d'octobre sera consacré à l'alimentation. Avec tout un programme d'activités, visites de fermes, ateliers de cuisine, etc. Et en novembre, ce sera le mois du consommer autrement, qui vise à promouvoir la consommation durable, seconde main, réparation, vrac, etc. Info sur grenoblealpemétropole.fr/mois-des-solutions tout attaché. Savoir. La science est une fête. Du 3 au 13 octobre, dans toute l'agglomération. Cette année, la fête de la science a lieu dans la métropole grenobloise, comme dans toute la France, sur le thème « intelligence » au pluriel. Des dizaines d'événements ludiques permettront d'explorer les multiples visages des intelligences sous toutes leurs formes. Petits et grands, professionnels ou curieux, chacun peut participer à ce grand festival des sciences. Info sur fêtedelascience.fr. Football. Les Bleuets au Stade des Alpes. Le 13 octobre et le 17 novembre à Grenoble. Le Stade des Alpes accueille deux rencontres de l'équipe de France Espoir dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2027. Les Bleuets affronteront l'Estonie le 13 octobre, puis les îles Féroé le 17 novembre. Renseignements billetterie.fff.fr/fr. Savoir. Le Forum des métiers. Les 8 et 9 octobre à Alpexpo Grenoble. Emploi, formation, reconversion. Grenoble-Alpes-Métropole organise chaque année, à l'automne, le Forum des métiers. L'occasion de découvrir des métiers et des entreprises qui recrutent et de participer à un atelier ou d'assister à des démonstrations. L'an dernier, 8000 visiteurs avaient parcouru les allées du Forum et découvert les stands de 200 exposants. Gratuit, sur inscription préalable en ligne. Info sur grenoblealpemétropole.fr/forum-des-métiers. Mais aussi la Coupe Picard, du 16 au 21 septembre à Limbain et Saint-Hilaire-du-Touvet, Grésivaudan. La Belle Braderie, dimanche 21 septembre, dans le centre-ville de Grenoble. Grenoble-Alpes-Métropole Jazz Festival, du 26 septembre au 12 octobre dans 8 communes de l'agglomération. L'automne des marchés du 6 au 12 octobre sur les marchés de la métropole. La 14e descente des alpages les 10 et 11 octobre dans le centre-ville de Grenoble. Raid multisport Grenoble-Alpes les 11 et 12 octobre au départ et à l'arrivée de Sassenage. Info sur grenoblealpesmétropole.fr/agenda. La métropole, info pratique. Mobilité. Agence M. Conseil, vente de tickets bus et tram, horaire, abonnement. 51 avenue Alsace-Lorraine, Grand Place. 15 boulevard Joseph-Vallier, Grenoble, 431 avenue Ambroise-Croizat, Crolles. Relais tag du campus. Horaire, trafic, abonnement et recharge. 442 avenue de la Bibliothèque Saint-Martin-d'Air. Site mobilité-m.fr. Agence M Vélo Plus. Location de vélos courte ou longue durée. Deux agences, Parvis de la Gare, Grenoble, et Campus Saint-Martin-d'Air, et de nombreuses agences mobiles dans les communes. Site www.veloplus-m.fr. Adresse mail accueil@metrovelo.fr. Téléphone 09 74 77 73 80. Cities, CITIZ. Location de voitures en libre service. Téléchargez l'appli Cities. Site alpes-loire.cities.coop. Adresse mail alpes au pluriel loire@cities.fr. Téléphone 04 76 24 57 25. Voirie. Problème sur l'espace public? Nid de poule? Mobilier cassé? Feu tricolore défectueux? Contactez-nous au 0 800 500 027. Site grenoblealpesmétropole.fr/voirie. Numothèque. La Numothèque est une bibliothèque numérique accessible en ligne à tous les habitants. Elle propose des contenus en ligne tels que livres, films, musique, journaux, cours d'auto-formation, collections patrimoniales. Le service est gratuit pour tous les inscrits dans l'une des bibliothèques municipales du territoire. Si vous n'êtes pas inscrit en bibliothèque, vous pouvez obtenir un accès d'un mois en vous inscrivant en ligne sur le site numothèque.grenoblealpesmétropole.fr. Énergie. Réduire sa facture. Suivre vos consos d'énergie au quotidien. Connaître les astuces pour les réduire, site grenoblealpesmétropole.fr/métroénergie. Changer sa cheminée. Avec la prime air-bois, installez un appareil de chauffage bois plus performant et moins polluant. Site internet grenoblealpesmétropole.fr/poêle, P-O-E-L-E. Oh. L'eau potable. www.grenoblealpesmétropole.fr/eau potable, tout attaché. Pour Grenoble, Champs-sur-Drac, Clé, Échirolles, Gières, Mélan, Mont-Saint-Martin, Noyaré, Provézieux, Quai en Chartreuse, Saint-Égrève, Saint-Martin-le-Vinou, Sassenage, Vars, Veurey-Voroise. Téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30 au 04 76 86, 20, 70. Pour les autres communes de la métropole, téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h au 04 85 59 50 00. Les eaux usées. Site grenoblealpemétropole.fr/eaux-usées au pluriel tout attaché. Téléphone 04 76 59 58 17. Déchets, tri. Numéro vert, collecte, conseil de tri, retrait de bac, appel et service gratuit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h au 0 800 50 00 27. Site internet grenoblealpemétropole.fr/déchets au pluriel. Logement. Faire une demande de logement social, améliorer son logement, mettre son bien en location ou devenir propriétaire en accession sociale, découvrez les actions de la métropole. Site grenoblealpemétropole.fr/logement. Vos questions, nos réponses. Ma poubelle grise est cassée. Puis-je en avoir une autre? Tout habitant de la métropole grenobloise peut recevoir gratuitement des poubelles, bacs de collecte, des composteurs et des lombricomposteurs grâce à une simple demande en ligne sur grenoblealpemétropole.fr/bac au pluriel. Puis-je recharger ma voiture au P+R Grand Sablon? Si oui, quels sont les tarifs? Le parking relais Grand Sablon à La Tronche dispose de 16 bornes de recharge pour les véhicules électriques gérées par l'opérateur Alize. Le tarif est de 0,29 € par kilowattheure. Toutes les informations sont à retrouver sur le site alizecharge.com. Puis-je utiliser mon abonnement de tram pour prendre le train? Oui, si vous avez un abonnement M-Tag sur une carte Oura ou que vous achetez un ticket via l'appli M ou par SMS, vous pouvez voyager en train entre les gares d'Échirolles, Grenoble, Saint-Égrève, le pont de Clé, Gières, Jarry-Visil, Vif et Saint-Georges-de-Commiers.
Une rubrique pour les plus jeunes. Les petits métropolitains. Super héros de ton assiette. Carottes, haricots, tomates, fraises, oranges, melons. Les fruits et les légumes sont de vrais trésors pour ton corps. En manger tous les jours t'aide à rester en forme, plein d'énergie et de bonne humeur. Les fruits et légumes sont remplis de vitamines, comme la vitamine C qui aide à ne pas tomber malade, et de minéraux. Ton corps en a besoin pour avoir de l'énergie et bien se développer. Ils contiennent des fibres qui t'aident à bien digérer et évitent le mal de ventre. Grâce aux fruits et légumes, tu protèges ton corps contre certaines maladies comme le diabète, l'obésité ou les cancers. Ce sont des aliments riches en eau. Parmi eux, la pastèque, le concombre ou la tomate sont les champions pour rester bien hydratés, surtout quand il fait chaud. Cuit, cru, chaud, froid, en compote, à croquer, en gratin, en tarte, il existe de nombreuses façons de cuisiner les fruits et légumes et de te faire plaisir. Les fruits et légumes, c'est meilleur de saison. En été, dans un potager, on trouve des tomates, des melons, des courgettes ou des framboises. En hiver, place aux courges, carottes, mandarines. Chaque fruit ou légume pousse à une saison bien précise. Manger des fruits et légumes à la bonne saison, cultivés près de chez toi, c'est mieux pour plein de raisons. On les récolte bien mûrs, donc ils ont plus de goût. Ils sont souvent moins chers et ça réduit la pollution car ils n'ont pas besoin de faire de longs trajets en camion ou même en avion pour arriver jusqu'à ton assiette. Et s'ils sont bio, c'est-à-dire cultivés sans produits chimiques, c'est encore mieux.
tribune. Expression des 7 groupes politiques représentés à la métropole. Chacun d'entre eux dispose de 1600 signes pour exprimer son point de vue. Les 119 conseillers métropolitains se divisent en, pour la majorité, UMA, 30 membres, UMA, une métropole d'avance, NMC, notre métropole commune, 25 membres, ACT, Arc des communes en transition écologique et sociale, 19 membres, CCC, Commune, Coopération et Citoyenneté, 14 membres. Pour l'opposition, CCM, Commune au cœur de la métropole, 12 membres. MTPS, Métropole Territoire de Progrès Solidaire, 11 membres. GOSDDCC, Groupe d'opposition Société Civile divers droites et centres, 3 membres et 5 élus hors groupe. ACT, Souad Grand, adjointe au maire de Pont-de-Claix, Laetitia Rabi, adjointe au maire d'Échirolles, Bertrand Spindler, maire de La Tronche, groupe Arc des communes en transition écologique et sociale, ACT, coopération intercommunale. De par la volonté souveraine du maire de Grenoble, 9 communes de la métropole seront privées d'un second représentant au Conseil métropolitain en 2026. Ce qui avait été possible pour l'élection de 2020 ne l'est plus 6 ans plus tard. Au lieu d'être représentées par une femme et un homme, ces 9 communes ne seront plus représentées que par une seule personne. Il s'agit, par ordre décroissant, du nombre d'habitants, de Vif, Varsalières et Risset, Cessin, Claix, Gières, Vizille, Domaine, La Tronche et Saint-Martin-le-Vigneux. Dans notre métropole, la ville-centre ne représente que 35% de la population. La coopération entre communes pour faire fonctionner la métropole est donc indispensable. D'ailleurs, notre métropole a un statut dont le nom parle de lui-même, établissement public de coopération intercommunale. Les élections municipales ont lieu dans chaque commune sur des programmes d'abord communaux. Ce n'est qu'après les élections dans chaque commune que se rassemblent les personnes élues pour siéger au conseil métropolitain. Elles doivent alors s'organiser pour gouverner et gérer la métropole. Avec cette défiance politicienne du maire de la ville la plus importante, exprimée pour 9 communes qui sont de tendances politiques très diverses, la coopération intercommunale partira mal en 2026. Être la ville située au centre géographique de la métropole, être la ville la plus peuplée, cela compte et personne n'imagine ne pas coopérer avec elle. Mais cela oblige réciproquement que Grenoble soit à l'écoute et coopère avec ses voisines. facebook.com/élu-acte.lamétro tout attaché. CCC Jean-Paul Trovero, conseiller municipal de Fontaine, président du groupe Commune, Coopération et Citoyenneté. Il faut mobiliser les richesses pour répondre aux besoins localement et globalement. La métropole qui fête ses 10 ans continue d'agir pour améliorer le quotidien des habitants-habitantes. La majorité métropolitaine fait le choix d'investir massivement pour la transition écologique dans les transports, les déchets, la rénovation énergétique des bâtiments ou la végétalisation des espaces publics. Les inégalités sont importantes. La métropole agit donc par des politiques de solidarité en faveur des personnes et territoires défavorisés pour l'accès à l'emploi ou au logement. Mais les contraintes budgétaires imposées en 2025 ont obligé la métropole, comme d'autres collectivités, à revoir à la baisse ses ambitions dans certains domaines. François Bayrou a annoncé une loi de finances 2026 avec 44 milliards d'euros d'économies de dépenses, donc 5,3 milliards d'euros pris dans les recettes des collectivités territoriales. Il faudrait au contraire renforcer les services publics locaux. Les autres économies injustes annoncées produiraient des dégâts économiques et sociaux. Gel des prestations sociales, des retraites, des remboursements pour les malades de longue durée, suppression de 2 jours fériés malgré le chômage de masse, nourriront la pauvreté et la récession économique. Le record de versement aux actionnaires du CAC 40 est battu avec 98 milliards d'euros en 2024 et un rapport du Sénat vient de montrer que le total des aides de l'État aux entreprises est de 211 milliards d'euros. Voilà une piste d'économie, bien qu'une partie de la manne puisse servir à une réelle action économique publique à l'opposé du laisser-faire actuel illustré par le cas de Vencorex. Refusons ces régressions et mobilisons les ressources pour répondre aux besoins sociaux et écologiques. facebook.com/commune au pluriel coopération citoyenneté tout attaché.
UMA Chloé Pantel, adjointe au maire de Grenoble. Lionel Coiffard, conseiller municipal de Visil, coprésidente et coprésident du groupe Une Métropole d'Avance. Laurent Amadieu, maire de Saint-Égrève. Salima Didel Bruna, conseillère municipale de Grenoble. Via l'alimentation, notre métropole s'adapte aux défis climatiques. C'est ainsi l'ensemble d'un écosystème de la fourche à la fourchette que la métropole structure pour garantir une alimentation juste et de qualité à toutes et tous, de l'éducation à l'environnement à la santé, de la lutte contre la précarité au développement d'un tissu économique non délocalisable. Les aides à l'accompagnement à l'agroécologie ou au développement des AMAP rencontrent les propositions de projets d'éducation à l'environnement. Plus tangible, le Grand Marché des Alpes, ex-mines, est centrale dans cette politique publique transversale, est appelée à s'adapter, s'ouvrir au public sur la ville, s'adapter aux évolutions des métiers de l'alimentation. Autre facette, le plan alimentaire intercommunal de territoire. Il permet à 9 territoires de la grande région grenobloise de construire, en coopération, une même trajectoire de transition alimentaire et agricole vers des modèles vertueux et durables de production comme de consommation. L'objectif, permettre l'accès de toutes et tous à une alimentation respectueuse de l'environnement et des travailleurs de la terre, anticiper plutôt que subir des grands changements climatiques et sociétaux, préserver des filières de qualité et entretenir les milieux naturels. Cela s'incarne dans le mois de la transition alimentaire qui bat son plein actuellement avec des dizaines d'événements et des focus sur le lien entre alimentation et santé, mais aussi sur les légumes ainsi que des propositions spécifiques pour les jeunes et les étudiants souvent en situation de précarité alimentaire. Site unemétropoledavance.fr tout attaché. NMC Anaïde Mardi-Rossien, adjointe au maire de Saint-Martin-le-Vineau, Jean-Luc Corbet, maire de Vars-Allières-Hérissé, Marc Audon, maire de Venon, coprésident du groupe NMC. Un mandat d'action. Nous voilà déjà à quelques mois des prochaines élections municipales et métropolitaines qui viendront renouveler notre conseil. Un mandat qui a débuté dans un contexte difficile de pandémie et de crise induite, économique, sociale et sociétale. Puis les bouleversements internationaux et nationaux se sont enchaînés, mettant les élus et les services métropolitains à rude épreuve. Nous tenons ici à les remercier pour leur adaptabilité et leur polyvalence pour faire face à l'inconnu et maintenir nos services publics. Dans cette période d'instabilité et durant un mandat difficile, les élus du groupe NMC se sont attelés à tenir bon et à faire avancer notre métropole, sans renier leurs principes et leurs valeurs, la solidarité entre les communes et les habitants, l'équilibre des dépenses métropolitaines entre tous les territoires, le maintien des services publics essentiels du quotidien, accès à l'eau potable, gestion des déchets, amélioration de notre voirie et de nos espaces publics. Avec une approche pragmatique, nous avons su rester fermes pour lutter pour l'emploi et les solidarités et contre la fermeture des plateformes chimiques, contre une hausse d'impôts locaux non liés à des services supplémentaires, ou encore pour faire du développement économique une priorité sans renier nos engagements environnementaux. Au-delà des grandes annonces, faire précisément et patiemment au quotidien ce qui est nécessaire pour mieux se déplacer, mieux habiter, mieux consommer, mieux vivre dans notre métropole et accompagner toutes les nécessaires transitions. Cet équilibre, nous l'avons aussi défendu suite à la suppression anachronique de l'accord local de représentation des communes par la ville-centre. Comment peut-on encore justifier cette décision si contraire à nos principes de démocratie locale? Les élus du groupe NMC se tournent maintenant vers l'avenir et sont déterminés à défendre ces valeurs dans le prochain mandat métropolitain pour les métropolitaines et les métropolitains. Site notremétropolecommune.fr, tout attaché. CCM Dominique Escaron, maire du Sapé en Chartreuse, président du groupe Commune au cœur de la métropole. La propagande. Vous avez reçu un magazine de la métropole de couleur rose fêtant ses 10 ans. Cette édition faisait la promotion de la bonne gestion de ceux qui se sont accaparés le pouvoir sans aucune contradiction, puisque le droit à l'expression des autres élus a fait l'objet d'un oubli. Zut ! Donc, aucune référence dans ce numéro au coût du siège métropolitain, à la mauvaise gestion du Stade des Alpes, aux tensions politiques, à l'état des routes, à l'augmentation de la dette, à la perte des commerces. Cette distribution accompagnée d'une lettre orientée politiquement, personnalisée par commune, s'apparente à une publicité électoraliste payée par nos impôts juste avant la période de réserve en raison des prochaines élections municipales. Mauvaise gestion, mais grosse pub. facebook.com/CCM Grenoble. MTPS. Laurent Tauviste, adjoint au maire de Fontaine, Émilie Chalas, conseillère municipale de Grenoble, coprésidente et coprésident du groupe Métropole Territoire de Progrès Solidaire. Un triste anniversaire. La métropole vient de fêter ses 10 ans d'existence. Dans son dernier numéro, l'exécutif pointe les réussites, transition énergétique, transport, qualité de l'eau et assainissement, traitement des déchets. Des domaines où la coopération intercommunale prend tout son sens, car il est évident que les besoins dépassent l'échelle de nos communes. Le bilan est par contre nettement moins bon en ce qui concerne le développement économique. La métropole ne dispose toujours pas de stratégie foncière. Une délibération est prévue en septembre, soit plus de 10 ans après sa création, et elle ne dispose que de 2,5 hectares de foncier disponibles pour accueillir les entreprises. L'attractivité, malgré la création de l'agence Grenoble-Alpes, repose surtout sur les entreprises et l'université, et les discours d'une partie de la majorité qui voit les entreprises comme des profiteurs ne sont pas là pour rassurer les investisseurs. Alpes Expo a été cédée à la région, la métro n'ayant plus les moyens d'investir. Nos voiries et nos espaces publics se dégradent, et le manque d'entretien est souvent pointé par les habitants. Mais le plus grave pour l'avenir, c'est sans doute la perte de confiance. Dans son introduction, le président Ferrari se disait fier d'avoir bâti une vision commune. Au cours de ce second mandat, cette vision commune a surtout été faite de batailles rangées au sein d'une majorité qui n'en avait que le nom et par l'exclusion d'une grande partie des communes. La fin de l'accord local qui permettait une meilleure représentation des communes moyennes, décidée par la ville de Grenoble, a marqué le coup de grâce. Un triste anniversaire. Grenoble-Alpes-Métropole-8 mtps.fr facebook.com/Grenoble-MTPS twitter.com/Grenoble-MTPS.
GOSCDDC. Alain Carignon, conseiller municipal de Grenoble, président du groupe d'opposition société civile, divers droites et centres. Brigitte Boer et Dominique Spini, conseillères municipales de Grenoble. Esplanade. Les élections permettront de trancher. Avant l'été, le conseil métropolitain a marqué un petit coup d'arrêt au projet d'aménagement de l'esplanade porté par la majorité d'Éric Piolle en renvoyant la décision finale à après les élections municipales de mars 2026. La majorité métropolitaine a refusé de donner son quitus à l'ensemble du programme de la municipalité grenobloise qui prévoit la suppression massive du stationnement, l'abattage d'arbres et une densification disproportionnée avec près de 900 logements. Un comble pour les élus verts LFI qui s'étaient pourtant fait élire en 2014 en s'opposant à un projet similaire et qui ont tenté d'imposer le leur au forceps. Notre groupe a toujours défendu une vision de bon sens et d'équilibre. Alors que la métropole manque déjà d'environ 1500 places de stationnement en parking relais autour de la ville-centre, nous proposons la création d'un parking en silo sur le site de l'esplanade pour faciliter l'accès au centre-ville. Une solution pragmatique que la majorité municipale de Grenoble a refusée en conseil municipal, annonçant clairement la couleur en cas de réélection de la même équipe. En mars 2026, les élections municipales détermineront aussi la gouvernance de la métropole. Elles permettront de décider de l'avenir de l'esplanade en fonction de l'équipe élue. Comme ce sera le cas pour la suite de l'aménagement prévu avenue Jeanne d'Arc ou pour le projet de sens unique Courbéria par exemple. Le pouvoir de décider est rendu aux citoyens, à eux de s'en saisir. Nous vous souhaitons une bonne rentrée. Société civile 38 @gmail.com. Le conseil en direct. Prochaine séance publique. Vendredi 26 septembre. Vendredi 7 novembre. 1 place André Malraux à Grenoble. Pour toutes les informations sur le lieu et les conditions, rendez-vous sur grenoblealpesmétropole.fr/conseil-métro tout attaché. Sur le web, le conseil métropolitain sera visible en direct sur grenoblealpesmétropole.fr.
Grenoble Climat Libé Tours avec Camille Parmesan, Hugo Duminil Copin, Lorraine Boudard, Dominique Bourg, Fanny Brun, Pierre Rouvière, Christophe Ferrari. Lieu MC2. Date 24 et 25 septembre. Gratuit sur inscription. Plus d'infos sur climat-libé-tour.libération.fr. Grenoble-Alpes Métropole, adresse postale 3 rue Malakoff, 38031, Grenoble, CEDEX 01. Téléphone 04 76 59 59 59. Accueil du public au 1 place André Malraux à Grenoble. Site internet grenoblealpesmétropole.fr/contact. Directeur de la publication, Christophe Ferrari. Directeur de la communication, Emmanuel Chion. Responsable photo, Clara Goubeau. Photo, Valentine Autruff, Lara Ballet, Randa Berbouche, Billy Kusters, ASO. Alain Doucet, Nils Luna, Clara Goubeau, Michael Penverne, Sophie Rodriguez, Vianney Thibault. Rédaction en chef, Valentine Autruff. Rédaction, Nathalie Anula, Valentine Autruff, Floriane Boyot, Michael Penverne, Jérémy Tron. Mise en page et illustration, Fabien Lagoriot, Marie Stanisière, Lou Catala. Administration, Nadine Bertoncello, Sandrine Magro. Impression, Imprimerie France Offset Typo, FOT. Distribution, Géodiffusion. Dépôt légal à parution. Distribution, toutes boîtes aux lettres, dépôt en nombre, mairies et équipements métropolitains. Tirage 220 000 exemplaires. Papier 100% recyclé, certifié PEFC. 100% issu de gestion durable de la forêt. Illustration de couverture, copyright, Marie Stanisière.
Votre magazine Métropole Mag est enregistré pour vous par les donneurs de voix de la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère. Des grands classiques aux auteurs contemporains, tous les genres figurent dans notre catalogue, y compris des romans pour la jeunesse. Plus de 3500 livres sont déjà enregistrés par nos donneurs de voix pour toute personne dont l'empêchement de lire est médicalement attesté. Ils sont accessibles à la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère soit en CD ou CDA ou MP3 ou bien sur clé USB ou encore en téléchargement sur notre site www.bsgrenoble.org. Ils sont expédiés en franchise postale à nos adhérents ou disponibles à nos permanences à Grenoble le mardi de 14h à 16h et le jeudi de 9h à 11h au 11 place Gustave Rivet. En outre, plus de 25 000 livres et 2 000 revues de presse sont accessibles par nos adhérents par téléchargement sur le site de l'Association des donneurs de voix. Pour nous contacter, le téléphone est le 07 44 86 86 04. Courriel secrétariat@bsgrenoble.org. Ici se termine l'enregistrement intégral du magazine Métropole Mag numéro 19, rentrée 2025. Merci de nous communiquer vos commentaires sur cet enregistrement. À bientôt pour le prochain numéro.